Voilà, alors je vous propose de le présenter, ce cours d'histoire des religions, en rappelant peut-être que c'est bien sûr un programme qui fait suite à celui de l'an dernier, et justement c'est peut-être tout l'intérêt du site de l'ACLA. L'ACLA vous permet de retrouver les cours de l'an dernier. Je mets sur le site de l'ACLA en ligne les cours que je donne, et il y a encore les cours bien sûr de l'an dernier. Pour ceux qui nous rejoindraient là cette année pour la première fois, ça peut être intéressant. Donc l'an dernier on avait traité essentiellement d'une période qui est le Haut Moyen-Âge, et là on va s'intéresser surtout au Moyen-Âge et plus précisément au christianisme du Moyen-Âge. Donc c'est bien le développement d'un chapitre qui l'an dernier avait été consacré au christianisme du Haut Moyen-Âge, ou du christianisme au Haut Moyen-Âge, chapitre qui avait été un peu court, parce que le programme de l'an dernier était assez dense, on avait parlé de beaucoup de choses, dont l'islam par exemple. Et là il s'agit cette année de continuer cette histoire du christianisme, là où on l'avait laissé donc l'an dernier, mais de porter cette histoire jusqu'après les réformes, c'est-à-dire jusqu'au XVIe et même XVIIe siècle. Alors il y aura un chapitre d'introduction qui est essentiel, absolument essentiel. Donc je veux pas dire que ces cours sont difficiles, ils ne le sont pas, mais bon, c'est vrai que quand même je préfère démarrer ce programme par des choses qu'on a déjà dites l'an dernier, donc autrement dit sur des bases qui soient à peu près solides pour bien démarrer l'année, pour pas qu'il y ait de malentendus sur ce qu'on va développer par la suite. Donc l'introduction en trois cours, c'est une redite de ce qu'on a pu évoquer l'an dernier, d'ailleurs assez succinctement, donc c'est à la fois un rappel, mais des compléments. Il y aura des compléments qui seront bienvenus dans cette introduction, et donc ça sera la base donc pour tout le programme de cette année. Alors on démarrera par donc un sujet qui s'intitule « Les nouvelles aspirations religieuses au XIe et XIIe siècle, renoncement au monde et dépouillement », c'est-à-dire qu'on rappellera la crise de l'Église, c'est-à-dire qu'après le monde carolingien, quand le monde carolingien disparaît, est en pleine déliquescence, le christianisme va mal, l'Église catholique romaine va très très mal, en raison de la querelle des investitures, en raison de la simonie, en raison du nicolaïsme, et cette crise de l'Église va correspondre finalement à des aspirations chez les fidèles. Ce sont les fidèles qui ont ces aspirations, aspirations au renoncement au monde, au dépouillement, et ça va se traduire, ces aspirations finalement, au renoncement au monde, au dépouillement, ça se traduit d'une façon très différente, ça peut se traduire par un mouvement tout à fait étonnant qui s'est appelé le mouvement de la paix de Dieu, par exemple. Ça peut se traduire encore, pourquoi pas, par la réforme grégorienne. La réforme grégorienne sera bien sûr une réponse à la crise de l'Église, et donc une réponse incomplète à ceux qui avaient ces aspirations au renoncement au monde et au dépouillement. Ça peut être aussi comme réponse à tout cela, donc une façon de traduire donc cet état de fait, la fondation d'ordre monastique. On pense à Cluny, l'ordre clunisien né en 909. On pense aussi aux cisterciens, et l'ordre des cisterciens était un ordre qui était attaché, très attaché même, à ses aspirations qui sont encore et toujours, donc le renoncement au monde, la pauvreté, le dépouillement, au contraire de Cluny qui évoluera vers toujours plus de faste. Donc ça se traduit diversement, on le voit, et ça se traduit aussi d'une façon assez radicale. Ce renoncement au monde et ce dépouillement peut effectivement se traduire sous la forme d'hérésies, des hérésies qui sont par exemple celles des vaudois ou encore des humiliatesses. Les humiliatesses sont effectivement des gens qui recherchaient une pauvreté absolue, donc effectivement ça illustre très très bien, je crois, ce climat et ces aspirations au XIe et XIIe siècle. Tout ça n'est qu'un rappel, hein. Tout ça on l'avait vu l'an dernier, mais je préfère effectivement donc repartir sur ces bases-là et poser notamment cette thématique d'emblée, qui est une thématique qui va traverser tout le programme comme un fil conducteur, qui est la thématique de la pauvreté. Donc combien de fois cette Église catholique romaine se posera la question de savoir si elle doit être pauvre, hein, finalement. Donc oui, c'est un fil conducteur très important. Donc il faudra beaucoup insister finalement sur ces aspirations qui ne sont pas du tout anecdotiques. Voilà, c'est ce qu'on redira donc lors de ce premier cours. Ensuite, alors on mettra en avant la réforme grégorienne. Et cette réforme grégorienne permettra d'évoquer aussi du même coup l'avènement des ordres mendiants. Il y a une sorte de coïncidence finalement. Donc c'est aussi une façon pour l'Église d'affirmer son pouvoir. Donc on évoquera tout cela, c'est-à-dire qu'on rappellera que l'Église s'affirme de différentes façons. Par exemple, par un schisme, le schisme de 1054, quand l'Église catholique romaine décide la rupture, et la rupture définitive, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, d'avec l'Église de Constantinople, cette Église qu'on appellera l'Église orthodoxe. Donc c'est le schisme de 1054, et le schisme de 1054 est le point de départ de la réforme grégorienne. Hein, c'est le premier épisode, si vous voulez, de cette réforme grégorienne qui tendra à répondre à ces questions qui sont la querelle des investitures, la simonie, le nicolaïsme, par exemple, entre autres choses. Bon, mais l'Église s'affirme d'une autre façon, par le biais des croisades, par exemple. Hein, le pape Urbain II qui vient en France pour prêcher la croisade dès 1096, et ça marche bien sûr, c'est-à-dire qu'on voit des armées de chrétiens partir à la conquête des Terres Saintes. Donc c'est une façon pour l'Église de s'affirmer, et une autre façon de s'affirmer, c'est de taire les hérésies. Alors la question des hérésies, par contre, nous l'avions beaucoup développée l'an dernier, hein, donc on ne va pas y revenir cette année, certainement pas. On fera juste un petit rappel. On rappellera en effet que la question de l'hérésie est une question finalement montée de toutes pièces. Que ces fidèles, que ces croyants, que ces chrétiens, j'allais presque dire finalement, ces bons chrétiens, hein, au XIe et XIIe siècle, qui ont ces aspirations au renoncement au monde, au dépouillement, c'est-à-dire qui sont attachés aux paroles de Jésus, donc aux paroles évangéliques, et strictement à ces paroles évangéliques. Ces gens-là, qui sont finalement des bons chrétiens, commencent à gêner l'Église. Hein, l'Église, en tant qu'institution, est extrêmement gênée par ces gens-là. Et donc, quand on parle de la question des hérésies, on parle de quelque chose qui a été monté toute pièce. L'exemple qu'on avait pris l'an dernier, c'est l'hérésie cathare. Ah oui, donc on se souvient qu'un Egbert de Chauneau, qui est un moine bénédictin, va inventer à proprement parler en 1163 le catharisme, et le catharisme servira l'Église, hein, servira à asseoir l'autorité de l'Église, donc c'est-à-dire qu'elle assoit son autorité vis-à-vis des grands princes laïcs qui parfois effectivement gardaient pour eux l'investiture des religieux. Mais elle va s'imposer aussi sur le plan purement religieux vis-à-vis de ces gens qui ont ces aspirations qu'on a évoquées. Voilà, alors affirmation du pouvoir de l'Église, c'est-à-dire que la période est capitale, hein, donc cette période de la réforme grégorienne, cette période où justement l'Église va développer cette question de l'hérésie, elle est essentielle, car l'Église en tant qu'institution est en train de muter, hein, de se métamorphoser profondément et affirme son pouvoir, oui, un pouvoir qui va devenir extrêmement important au cours du Moyen-Âge. Bon, alors ça on le dira. Et puis, alors comme on aura parlé de ces prétendus hérétiques, parce que bon, ce ne sont que des prétendus hérétiques, on parlera de formes religieuses qui sont effectivement excessives. Il n'y a pas que le renoncement au monde, c'est-à-dire la pauvreté ou le dépouillement, il y a aussi l'érémitisme. Mais les ermites, car c'est un mouvement très très important au Moyen-Âge, hein, au XIe et XIIe siècle, les ermites sont des gens qui, à cette époque, sont un peu curieux parce qu'ils aiment beaucoup parler, sont des ermites soit, mais qui vont s'approprier finalement un droit à la prédication. Et donc le troisième cours de cette introduction mettra en question la prédication. Ça, c'est tout à fait essentiel. On pourra alors évoquer, par exemple, le fameux Robert d'Abricelle. D'Abricelle, c'est celui qui a fondé Fontevraud, l'ordre de Fontevraud, que vous connaissez tous. Bon, c'est celui qui entraînait ces Pauperes Christi à travers une partie de la France, là, de la Bretagne jusqu'à Fontevraud, justement. Donc 2000 personnes, hein, qui, pourrait-on dire, étaient fanatisées. Pauperes Christi, les pauvres du Christ. Hein. Donc des gens qui avaient ces aspirations, là, au renoncement au monde et au dépouillement. Il les entraînait derrière lui, mais surtout ce qui faisait sa force à Robert d'Abricelle, c'est sa prédication. Hein, il parlait très très bien, et c'est pour ça qu'il a pu attirer tous ces gens et finir par fonder dans un désert, hein, l'abbaye de Fontevraud. Il y a encore le marchand de Lyon, Valdo, qu'on appelle aussi Valdès, qui est à l'origine de l'hérésie dite vaudois, l'hérésie des vaudois. Valdès ou Valdo, c'est un prédicateur, mais un fin prédicateur. Et donc ces gens commencent à gêner l'Église. Et donc cette prédication sera mise en question par l'Église qui finira par l'interdire. Et c'est là justement que les ordres mendiants entrent en scène. C'est-à-dire dans cette situation qui est en fait assez explosive et qui montre quoi ? Qui montre que la réforme grégorienne n'a répondu, n'a réglé que quelques questions. C'est une réforme qui n'a pas abouti sur certains points ou certains plans, notamment celui de la pauvreté, de ses aspirations au renoncement au monde ou au dépouillement. Et c'est là qu'entrent en scène les ordres mendiants, la mendicité, donc des ordres qui sont pauvres ou qui sont censés être pauvres, des ordres qui ne vivent que de mendicité, justement. Bon, donc ils entrent en scène à ce moment-là, donc à ce moment où justement donc il y a de l'agitation finalement dans le christianisme en Occident. Et là on verra que ces ordres mendiants ont été essentiels à l'Église, hein, que l'Église catholique romaine ne pouvait que les approuver, ces ordres mendiants, au risque de disparaître. Hein, ça c'est une image très forte, hein, que Giotto a laissé à Assise, ce songe du pape Innocent III qui voit l'Église qui est en train de basculer, mais Saint François arrive pour soutenir cette Église. Donc Giotto a peint l'Église avec un grand E, hein, complètement en diagonale, donc basculée, en train de s'effondrer si vous voulez, mais Saint François comme un pilier très, très solide, très fort, va soutenir cette Église. Et c'est le songe du pape. Hein, donc le pape prend conscience, bien sûr, que c'est fondamental, hein, qu'il ne peut pas se passer de ces ordres mendiants. Donc c'est ainsi que le pape Innocent III, en 1209, va approuver l'ordre des franciscains. Mais ce même pape n'approuvera pas les Fraticelli. Les Fraticelli seront à ses yeux des hérétiques. Pourtant, qui sont les Fraticelli? C'est une branche des franciscains, si vous voulez. Hein. C'est une façon de parler de la diversité des ordres mendiants. Hein. Et ces ordres mendiants, bien sûr, qui sont très, très diversifiés, correspondent à des gens, à des fidèles, à des croyants qui ont bien ces aspirations à la pauvreté, au renoncement au monde ou encore au dépouillement. L'Église ou bien les qualifie d'hérétiques pour affirmer son pouvoir, mais arrivé à un certain stade, l'Église ne peut qu'approuver ces ordres-là. Donc c'est l'ordre des frères mineurs, donc c'est-à-dire l'ordre de Saint François. Ces ordres, j'insiste beaucoup, répondent pour l'Église aux aspirations des fidèles, hein, aspirations qui sont toujours les mêmes bien sûr, mais c'est pour l'Église effectivement que ces ordres répondront à ces aspirations, dès lors que ces ordres sont intégrés à l'Église, approuvés par le pape. Donc c'est l'ordre des frères mineurs Saint François, l'ordre des frères prêcheurs Saint Dominique, et cette appellation est très très intéressante, ordre des frères prêcheurs. Vous voyez bien que la prédication, c'est une question fondamentale, qui gêne l'Église qui va justement instituer l'inquisition, On en avait parlé, je crois, l'an dernier. Ça a été un organe indispensable pour lutter, semble-t-il, contre les hérésies. Donc c'est le pape Grégoire IX qui institue l'Inquisition en 1233 et qui très très vite, hein, parce que dès 1233, l'ordre des dominicains est approuvé, donne cette Inquisition aux dominicains. Et donc du même coup, cet ordre devient l'ordre des frères prêcheurs, ceux qui ont le droit de prêcher, qui ont ce droit à la prédication dans l'Église, sous-entendu que les autres n'ont pas ce droit, hein, de parler. Parler, c'est dangereux, parler. Hein. Parler, c'est bien sûr très très dangereux. Surtout si on dit la vérité, finalement, hein, ce que contient l'Évangile, ou ce qu'est le message de Jésus. Donc effectivement, hein, la prédication est quelque chose qu'il faut contrôler, que l'Église contrôlera grâce à l'ordre des frères prêcheurs qui aura l'Inquisition. Alors ensuite, on parlera du fonctionnement des ordres mendiants, entre autres du fonctionnement de l'ordre des dominicains qui est tout à fait exemplaire. Les dominicains mettent au point un système constitutionnel original qui est très hiérarchisé et qui sera repris par la suite et qui ne sera pas repris seulement dans le domaine religieux par d'autres ordres, mais aussi, pourquoi pas, par des gouvernements, par des États. Hein, les dominicains, pour ça, étaient célèbres. Hein, donc, ils sont très organisés, très hiérarchisés, très rationnels aussi, hein, les dominicains. Donc, on parlera de ce fonctionnement et on parlera donc aussi de la question de la pauvreté. La pauvreté, c'est, je le redis, en quelque sorte le fil conducteur là, de ce programme. Après tout, ne parle-t-on pas d'ordres mendiants, hein, qui sont censés vivre de mendicité? Bon, mais on sait que ce n'est pas possible, et ça ne sera pas possible ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour l'un des ordres, ni pour l'autre. Bon, alors justement, en abordant cette question de la pauvreté, pauvreté des ordres mendiants, on sera amené à évoquer la place des ordres mendiants dans l'Église. Il faut comprendre une chose, que ces ordres mendiants n'en restent pas moins loin des objectifs recherchés par l'Église, hein, que ces ordres-là sont en porte-à-faux avec leurs questions de pauvreté, leurs aspirations au dépouillement, etc., etc. Ils sont en porte-à-faux parce que recherche l'Église en tant qu'institution? C'est la puissance. C'est la puissance. Hein, bon, la puissance et la richesse. Si vous avez un doute, pensez par exemple à ce que sera plus tard, au XIVe siècle, la papauté d'Avignon. Ce que seront les fastes d'Avignon. Les fastes d'Avignon seront inacceptables pour un franciscain qui s'appelle Guillaume d'Ockham, qui va s'opposer à Jean XXII, le pape Jean XXII, qui est un pape d'Avignon bien sûr, et la controverse entre les deux hommes, qui sont très très intelligents d'ailleurs, hein, la controverse est restée très très célèbre. Mais enfin, voilà, c'est que la papauté d'Avignon était célèbre pour ses fastes, pour sa richesse, pour sa puissance aussi, hein, c'est ce que recherche l'Église. Donc on se doute que ces ordres mendiants sont en porte-à-faux dans l'Église. Et ensuite, on évoquera deux très fortes personnalités de ces ordres. D'abord un dominicain, qui est saint Thomas d'Aquin, dont vous avez les dates de vie et de mort, de façon à présenter ce qui sera, mais pas avant le XIVe siècle, la doctrine officielle de l'ordre des dominicains, le thomisme. Et le thomisme... Pardon. Le thomisme sera la philosophie des dominicains, la philosophie bien sûr de saint Thomas d'Aquin, une philosophie qui est aristotélicienne, qui s'attache donc à Aristote, et qui sera vertement condamnée par les franciscains en 1277, donc quelque temps avant que Jean XXII n'approuve le thomisme. En 1277, les franciscains montent une cabale contre le thomisme et parviennent à interdire le thomisme en tant qu'enseignement et philosophie. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un enseignement aristotélicien, donc c'est-à-dire fondé sur Aristote, sur essentiellement donc le naturalisme, la raison aussi, bien sûr, la raison. Mais l'argument des franciscains est le suivant, donc en disant effectivement que le thomisme est aristotélicien, ils disent du même coup que ce thomisme est proche de la philosophie d'Averroès, le grand philosophe arabe Averroès, qui est antérieur bien sûr à saint Thomas d'Aquin. Il a vécu avant saint Thomas d'Aquin, Averroès. Oui, mais Averroès est musulman. Et l'islam, donc, à cette époque, donc, est qualifié d'hérésie par l'Église catholique romaine. Hein, donc, du même coup, Thomas d'Aquin est un hérétique pour les franciscains, puisqu'il est aristotélicien. Il est comme Averroès. Averroès est un musulman. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à interdire le thomisme. Et le thomisme, donc, sera, donc, aux yeux de Jean 22, donc, une philosophie tout à fait honorable. Et donc, à partir de là, le thomisme est la doctrine officielle de l'ordre. Alors oui, donc il y a eu une dispute là entre dominicains et franciscains, sévère d'ailleurs, hein, ça a été très très sévère, d'où ces deux figures, saint Thomas d'Aquin, son thomisme, donc c'est du côté des dominicains, Jean Duncecott, le grand franciscain, qui lui s'est opposé au thomisme et qui a développé ce qu'on a appelé le scotisme, donc le thomisme contre le scotisme. C'est le scotisme de Jean Duncecott qui réagit justement contre le primat de l'intellect. Hein, le primat de l'intellect, c'est-à-dire Aristote, la raison, donc, etc. Et ce que fait Jean Duncecott, c'est de poser la question de la foi. Quelle est la foi, enfin, quelle est la position de la foi par rapport à la raison? Pour saint Thomas d'Aquin, foi et raison donc s'équilibre, la foi et la raison se complètent, et le thomisme est une élaboration extrêmement complexe, très fragile, comme un château de cartes, de façon à équilibrer les deux notions, à les mettre sur un même plan, la foi et la raison. Pour les franciscains, c'est intolérable, absolument intolérable, de mettre sur un même plan la foi et la raison. Donc Jean Duncecott, opposé à cela, va développer quant à lui une philosophie qui se fonde sur la foi, et exclusivement sur la foi, et non pas la raison, et non pas le primat de l'intellect, hein, et surtout pas Aristote, bien sûr. Bon, alors ça c'est intéressant là, hein, donc ce débat entre les deux. Ils ne sont pas tout à fait contemporains d'ailleurs, hein. Vous avez remarqué qu'il était très jeune, Jean Duncecott, quand saint Thomas d'Aquin est mort, hein. Vous avez aussi remarqué que son thomisme à Thomas d'Aquin, il a été condamné 3 ans seulement après sa mort. Il meurt en 1274, le thomisme est interdit en 1277. Bon, et donc ainsi, le thomisme devra continuellement se défendre contre une certaine forme radicale d'augustinisme. Parce que c'est ça, finalement, Jean Duncecott fait preuve d'augustinisme. Ça tombe bien, vous connaissez Augustin. On a eu un cours d'une heure et demie sur Augustin donc l'an dernier, hein, c'était l'an dernier, et on avait évoqué la pensée d'Augustin, et surtout on avait évoqué la notion de la grâce chez Augustin, qui est une notion vraiment fondamentale. Bon, alors quand on dit effectivement que le thomisme devra se défendre contre une certaine forme radicale d'augustinisme, c'est-à-dire c'est contre ceux qui mettent la foi et la grâce avant la raison. Les thomistes sont soucieux d'un équilibre entre foi et raison. Mais voilà, donc il y a la grâce et la foi qui sont censées être supérieures à la raison. Donc, question de la grâce, qu'on posera avec John Duncecott, et cette question de la grâce va faire retour au XVIIe siècle, c'est-à-dire que cet augustinisme sera effectivement une question très débattue au XVIIe siècle, ce que l'on verra en fin d'année. Hein. Mais donc je continue donc la présentation de mon programme. Donc là on passe au verso de la feuille. Donc Avignon et le schisme, nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc il s'agit de présenter effectivement cette histoire de l'Église à ce moment-là. Donc la papauté d'Avignon, c'est une papauté qui s'installe en Avignon de 1309 à 1378, de Clément V, que l'on connaît bien donc ici à Bordeaux, jusqu'à Grégoire XI, et entre ces deux papes, il y a eu entre autres, alors le fameux Jean XXII. Jean XXII, je vous rappelle, est élu après 2 ans de siège vacant. C'est un scandale, hein, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'y a pas de pape. Donc les cardinaux ne s'entendent pas pour élire un pape. C'est un scandale. Bon. Au cours de cette période, donc parmi les papes d'Avignon, il y a eu Clément VI. Et là, pour reprendre la formule de Jacques Le Goff, Clément VI, dit-il, fastueux, débauché au surplus. Donc là, vous tenez un pape avignonnais qui était fastueux, débauché au surplus, c'est la formule de Jacques Le Goff. Bon. Donc ça montre ce qu'a été la papauté en Avignon, ce qui fait réagir des contemporains, comme par exemple John Wycliffe, dont vous avez les dates là, de vie de mort. John Wycliffe qui lance des appels à la réforme. Il est anglais et il ne supporte pas cette institution, c'est-à-dire cette église catholique romaine. Donc il lance des appels à la réforme, mais ce sont des appels qui sont très virulents. On pourrait les qualifier de radicaux finalement. C'est-à-dire que pour John Wycliffe, il n'y a rien à ajouter à l'écriture, un point c'est tout. S'il n'y a rien à ajouter à l'écriture, quel est le sens du clergé? Le clergé n'a plus de sens dans ce cas. Il n'y a plus besoin d'avoir une hiérarchie ecclésiastique. Quel est le sens des sacrements dans ce cas? Là aussi, les sacrements n'ont plus de sens du tout. Il n'y a plus rien à ajouter à l'écriture. Et l'Église ne se méfie pas. C'est-à-dire que ce John Wycliffe qui lance des appels très durs à la réforme, à l'époque à laquelle nous sommes, c'est-à-dire du temps de la papauté en Avignon, il est mort en 1384 de sa belle mort en Angleterre, sans être inquiété du tout par l'Église. Bon, ça montre à quel point l'Église est totalement décalée par rapport à une réalité. C'est-à-dire par rapport toujours aux aspirations des fidèles, des croyants, aspirations au dépouillement, à la pauvreté, au renoncement au monde, l'Église en tant qu'institution est complètement décalée par rapport à ça et ne voit pas finalement ce que sont les aspirations des croyants. Donc ce qu'elle recherche, c'est l'affirmation de son pouvoir, de ses privilèges et sa richesse. Et donc on aboutit inévitablement à la plus grande crise que l'Église catholique romaine n'a jamais connue, c'est le grand schisme d'Occident, c'est-à-dire une période qui suit aussitôt la période donc d'Avignon, qui commence en 1378 et qui se termine en 1418. 1378-1418, c'est long, c'est très très long, et vous savez qu'au cours de cette période, l'Église se donne deux à trois papes, c'est-à-dire que la chrétienté d'Occident, la chrétienté latine, si vous voulez, aura jusqu'à trois papes. Bon, l'histoire est la suivante. En 1409, un concile se réunit à Pise dans le but de déposer les deux papes. Mais ce concile ne fait qu'en élire un troisième pape. Et chacun de ces papes, ces trois papes, donc avait bien sûr des soutiens politiques, pour ne pas dire des royaumes, des états, si vous voulez. Et donc, ils étaient sûrs de leur puissance, de leur légitimité, et ça conduit à cette situation qui est gravissime, bien sûr, le grand schisme d'Occident. Alors, face à cela, réagit Jean Hus, justement. Jean Hus, lui, c'est le contemporain, il a vécu ces événements du grand schisme d'Occident. Et de sa chaire, de l'église de Bethléem, qui se trouve à Prague, et que l'on voit toujours aujourd'hui, l'église de Bethléem existe toujours aujourd'hui à Prague, il va lancer, lui aussi, des appels à la réforme, qui sont peut-être pas aussi durs que John Wycliffe, mais qui sont quand même assez virulents, en tout cas sa réaction est vive, à Jean Hus. Jean Hus, vous connaissez sans doute son histoire, il est invité à Constance par l'Église catholique romaine, par le pape donc, pour s'expliquer. Il exige un sauf-conduit que l'Église catholique romaine lui remet, donc en main propre. Il se rend donc à Constance et on fait son procès. Et ça aboutit à sa condamnation, c'est-à-dire qu'il est brûlé vif sur le bûcher en 1415, alors que l'Église lui avait donné son sauf-conduit. Quelle image! C'est-à-dire que l'Église n'a pas compris qu'elle en ferait un martyr. C'est-à-dire que après la mort tout à fait ignominieuse de Jean Hus, allait se développer un mouvement que l'on peut qualifier, je crois, de nationaliste, qui est le hussitisme, et le hussitisme en Bohême a été un mouvement donc qui a toujours réagi, bien sûr, contre le pouvoir pontifical, contre l'empereur, contre qui sais-je encore, mais enfin surtout le pouvoir pontifical et l'empereur, bien sûr. Donc on en a fait un martyr de ce Jean Hus. Hein. Bon. Donc alors vous comprenez, vers Contin, vers l'inévitable réforme de Luther. Ça n'a pas marché pour Jean Hus, mais ça marchera pour Luther, bien sûr. Mais avant cela, on parlera de la Devotio Moderna. Pourquoi ? Toujours pour les mêmes raisons. Ça montre à quel point notre chapitre d'introduction sera essentiel. Je me suis répété beaucoup, là. Aspiration au renoncement au monde, au dépouillement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces aspirations n'ont toujours pas changé. Ceux qui sont les fidèles, les petites gens, finalement, les croyants, les chrétiens, en fait, hein, ont toujours ces aspirations à la pauvreté. Hein, bon. Et bien sûr, l'Église, en tant qu'institution, est incapable de répondre à ces aspirations-là. Et malheureusement, donc à l'époque à laquelle nous sommes, c'est-à-dire déjà arrivé au XVe siècle, les ordres franciscains et dominicains n'y répondent pas non plus. Et donc se développe ce qu'on appelle la Devotio Moderna, la dévotion moderne, qui va tenter de répondre justement à ces gens qui sont des chrétiens et qui ont toujours ces aspirations. Ces gens qui d'ailleurs au XVe siècle sont persuadés de l'imminence de la fin des temps. C'est une certitude pour tous à cette époque. Personne n'en doute de l'imminence de la fin des temps. Et donc, ces gens qui sont des pauvres, des petites gens, donc des chrétiens, qui ont très très peur de ce jugement dernier, si vous voulez, s'infligent des pénitences pour espérer gagner le salut. Et la Devotio Moderna, c'est ça. Finalement, c'est un mouvement qui canalise les pénitences que s'infligeaient des laïcs, et des laïcs qui sont croyants, bien sûr, hein, qui sont des croyants, qui sont des chrétiens, en vue de gagner le salut, en vue donc de la fin des temps, du jugement dernier. Bon. Oui, pensez, c'est l'époque de Savonarole, hein, si vous en doutez, hein, de cette fin des temps. Pensez à Savonarole, hein, donc vers quoi il a entraîné les Florentins, Savonarole, hein, avant d'être lui aussi condamné et brûlé vif en 1498 sur la place de Florence. Donc, alors oui, effectivement, la Devotio Moderna, c'est un courant qui est incontournable. Ce courant s'appuie sur des textes. On peut citer l'Imitation de Jésus-Christ, qui est très célèbre, je crois. C'est le texte le plus célèbre de la Devotio Moderna, un des textes les plus célèbres du XVe siècle, l'Imitation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce texte ? C'est une lamentation de l'âme clamant sa misère, clamant son infirmité à Dieu. Donc, et là, on a effectivement quelque chose qui nous fait toucher du doigt la dévotion des gens de cette époque. Hein. Voilà, donc une lamentation de l'âme clamant sa misère, son infirmité à Dieu. C'est ça, la Devotio Moderna. Hein. Et ça traduit ce que sont les mentalités à cette époque, hein, bien sûr. Alors bon, inévitablement, et j'espère que vous le comprendrez, après tous ces cours que l'on aura eus, hein, qui sont très très orientés justement, vers quoi ? Ben, vers l'histoire. Donc, c'est-à-dire c'est un épisode fondamental de l'histoire, la réforme de Luther. Et il ne s'agit pas de dire, bien sûr, que cette réforme est insensée, qu'elle est tombée du ciel, qu'elle ne correspond à rien, qu'elle est en dehors d'un contexte historique, social, économique, religieux, un contexte de mentalité, certainement pas. Hein, c'est la conséquence de tout ce qui précède. C'était inévitable, la réforme de Luther. Hein. Elle avait été préparée un siècle plus tôt par Jean Hus et encore un peu plus tôt par John Wycliffe. Bon. Alors, Martin Luther, qui est ce moine augustin, tourmenté lui aussi par l'angoissante question du salut de son âme, parce que même pour Luther, l'imminence de la fin des temps ne fait aucun doute, ça ne fait aucun doute pour lui, lui qui trouvera pourtant une réponse, hein, donc à ses angoisses justement, bon, mais ça fait pour lui aucun doute. Et donc, comme il était tourmenté par cette angoissante question du salut de son âme, il va élaborer une réponse. Cette réponse, il va la placarder en 1517 sur la porte de l'église de Wittenberg, donc sous la forme de 95 thèses. Et parmi ces 95 thèses, il y a la plus importante qui est la justification par la foi. Et la justification par la foi, c'est la réponse que Luther apporte à cette angoissante question du salut. La justification par la foi se fonde sur une explication que Luther donne de l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la tour de Wittenberg. On ne sait pas s'il n'y a pas une part de légende derrière, mais enfin, il est censé effectivement s'enfermer dans cette tour de Wittenberg et élaborer cette explication ou cette interprétation de l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 17, et il en tire la justification par la foi. Voilà, qui permet de sortir effectivement de ce marasme, enfin oui, de ce marasme finalement. En tout cas pour certains qui seront les luthériens et qui vont effectivement suivre de très très près Martin Luther. Attention à ce propos, Martin Luther, ça aurait été exactement comme Jean Hus s'il n'avait pas été protégé. C'est-à-dire que là dans ce cas, c'est pas compliqué, pour que ça marche, il faut un soutien politique. Et ce que n'avait pas Jean Hus, Luther l'avait. Il était protégé par le prince électeur de Saxe, Frédéric le Sage. Et donc grâce à ce soutien contre l'empereur, contre le pape bien sûr, Martin Luther pourra développer sa justification par la foi, sa réponse finalement, sa réforme si vous voulez. Mais c'est un peu comme la diversité des ordres mendiants, il y a là aussi une diversité de réformes, ce qui nous conduit à l'anabaptisme. L'anabaptisme, c'est une pratique qui est tout à fait étonnante, mais qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, c'est pas une invention du XVIe siècle, c'est la pratique du deuxième baptême. Ça avait déjà été évoqué à l'époque paléochrétienne, souvenez-vous, des fanatiques, des fanatiques chrétiens qui estimaient que le baptême des petits-enfants ne valait rien et qu'il fallait baptiser à l'âge adulte. Donc l'anabaptisme, c'est ça, c'est une façon de renier le baptême des petits-enfants et de pratiquer un second baptême qui est le baptême adulte, à partir duquel, si vous acceptez ce baptême, alors que vous êtes adulte, vous ne pouvez plus vous permettre de commettre un péché, une faute, sinon c'est l'enfer. C'est inévitablement l'enfer. Donc c'est grave si vous voulez, c'est quelque chose, une décision très grave qui est prise. Bon. Et là, oui, là on touche des mouvements de réforme, sont bien des mouvements de réforme, mais qui sont très excessifs, qui sont fanatiques, qui d'ailleurs à ce propos, pour beaucoup d'entre eux, traverseront l'Atlantique pour se retrouver en Amérique, existent toujours en Amérique. Que vous les appeliez évangélistes ou autrement, bon. Et cet anabaptisme, il correspond assez bien à deux figures qui sont Thomas Münster et Melchior Hoffmann. Münster qui va développer ce qu'on a appelé le spiritualisme, c'est une forme de réforme, si vous voulez, mais très excessive, et donc du même coup très éloignée de Luther, et Melchior Hoffmann qui va lui développer le millénarisme. Donc c'est une pensée, si vous voulez, d'un côté le spiritualisme, de l'autre le millénarisme, mais ça en dit long, le millénarisme. Et c'est effectivement, ça fait partie de la réforme. Mais voilà, donc ça permet de bien dire, attention, il y a plusieurs réformes. Et par exemple, on ne peut pas faire correspondre la réforme de Luther à la réforme de Ulrich Zwingli. Zwingli impose la réforme à Zurich. C'est une réforme qui est construite, qui est cohérente et qui est bien sûr beaucoup plus tempérée que le spiritualisme de Thomas Münster ou encore le millénarisme de Melchior Hoffmann. C'est beaucoup plus tempéré, mais ça n'a rien à voir, ou assez peu de choses à voir, avec le luthérianisme, avec Luther. Pareillement pour Jean Calvin. Jean Calvin, lui, impose la réforme à Genève. Donc Zwingli, c'est à Zurich, et Calvin, c'est à Genève. Bon, et la réforme de Calvin, le calvinisme, si vous voulez, est relativement éloigné du luthérianisme. Et donc ça sera pour nous une façon de distinguer les réformés, qui sont les Zwingliens, les calvinistes, des luthériens. Hein, les réformés ne sont pas les luthériens. Les réformés ne sont pas les luthériens. Les réformés et les luthériens sont des protestants, donc tous sont des protestants, mais ce ne sont pas, ils se correspondent pas tout à fait. Par exemple, pensez que Luther n'a jamais caché qu'il aimait les images. Les calvinistes les détruisaient. Là, c'est le jour et la nuit, là, hein. Donc l'iconoclasme calviniste est très très célèbre, je crois. Hein. Bon, donc, j'en parlerai pas hein, de l'iconoclasme calviniste, hein. Pas du tout. Enfin, c'est pour dire juste, hein, c'est un exemple pour dire à quel point il faut distinguer les réformés des luthériens. Et donc ensuite, une fois qu'on aura vu ça, qu'on aura vu la théologie calvinienne, ce que Calvin a voulu faire, il a réussi finalement, donc de Genève et de ses habitants, bon, quand on aura vu tout ça, bon, on pourra parler de l'expansion de la réforme. Hein. Et c'est la réforme calviniste qui va se s'épanouir en Europe et qui va provoquer du même coup les guerres de religion. Et à ce propos, pensez quand même que les premiers martyrs protestants meurent à Anvers en 1523, et en France, les derniers galériens huguenots sont libérés en 1775. 1523, 1775, c'est long. On peut dire, hein, c'est légitime, on peut dire, les guerres de religion durent tout ce temps. 1523, 1775. C'est long quand même, hein. Daesh, l'État islamique, n'a qu'à bien se tenir, hein. C'est-à-dire, c'est des petits, hein, à côté, hein. C'est des petits, c'est des rien du tout, hein, ces gens, hein. Donc, c'est vraiment des amateurs, hein, par rapport à ceux qui sont les responsables de la Saint-Barthélemy, par exemple. Oula, 2000 à 4000 morts en une nuit. Ah oui, c'est des amateurs, hein. L'État islamique, c'est des amateurs à côté, hein. Bon, c'est rien du tout, hein. Comparé. Oui, c'est quelque chose, les guerres de religion, c'est quelque chose, bien sûr, de très important, et on verra comment ça s'est épanoui, donc pas les guerres de religion, mais la réforme, et surtout la réforme calviniste, donc en Angleterre, où elle devient donc anglicane, la réforme anglicane, donc comment elle se développe en France, et ailleurs, bien sûr, hein, excepté en Italie et en Espagne. Voilà. Alors, bon, alors ça c'est la réforme, mais il faudra bien parler de la contre-réforme. Et la contre-réforme, c'est d'abord et avant tout le Concile de Trente. Enfin, l'Église catholique romaine accepte la réforme. La réforme catholique, si vous voulez. Hein, donc, une réforme. Cette réforme grégorienne du XIe siècle avait été laissée inaboutie. Hein, donc, il y avait des choses que l'on n'avait pas traitées. Hein. L'Église avait traité la question de la simonie, de la querelle des investitures, du nicolaïsme, mais certainement pas d'autres questions qu'on aura abordées et que j'évoquais tout à l'heure. Bon. Et là, enfin, l'Église accepte de faire sa réforme. Le Concile de Trente a duré 18 ans, c'est long quand même, 1545-1563. Le Concile de Trente prend bien le contre-pied des réformés et des luthériens, c'est-à-dire que, par exemple, les pères conciliaires vont insister sur le culte des saints et le culte des images, alors que vous savez, les réformés, hein, donc sont particulièrement contre le culte des saints et des images. Donc c'est bien le contre-pied. Vu comme cela, on est en droit de parler de contre-réforme. D'accord, c'est bien une contre-réforme. Mais attention, dans ce Concile de Trente, il y a autre chose, de beaucoup plus profond et finalement donc de beaucoup plus important. C'est que les pères tridentins, les pères conciliaires, les pères du Concile de Trente vont proclamer au cours de ce concile l'autonomie de la volonté restée libre, la volonté est libre depuis le péché originel. Hein, donc Adam et Ève ont choisi de commettre le péché, hein, c'est de leur propre volonté. Bon. Et donc depuis cet état de fait, la volonté reste libre, mais du même coup, les pères conciliaires disent les idées, les sentiments, les passions peuvent être mis au service de l'humanité et du progrès. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire que dans l'élaboration de nos sociétés actuelles, hein, celles dans lesquelles on vit aujourd'hui, ce que vont dire là les pères conciliaires, c'est essentiel. Hein, donc les idées, les sentiments, les passions ne sont pas condamnées, bien au contraire, ça peut être mis au service de l'humanité et du progrès. C'est capital. C'est capital dans la constitution des États. C'est justement l'époque des États. L'État français se constitue au XVIIe siècle, pas avant le XVIIe siècle. Donc c'est capital, ça c'est fondamental. Alors ensuite, une fois qu'on aura vu, donc ça c'est très très important, on parlera de mystique. On commencera par Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, c'est un véritable mystique. Et un grand mystique, hein, d'abord et avant tout, certes fondateur de la Compagnie de Jésus, donc les jésuites qu'il fonde en 1540, mais ça n'enlève rien à ce qu'il était, c'était un véritable mystique. Et alors je précise qu'on parlera, qu'on évoquera, mais ça sera forcément très succinct, vous en doutez, l'histoire de cette Compagnie de Jésus, supprimée par Clément XIV en 1773, et puis finalement réinstaurée en 1814. Mais enfin, pendant cette période, là, 1773-1814, les jésuites disparaissent, ou du moins la Compagnie de Jésus est interdite. Hein. Alors, on parlera de cette histoire, mais c'est surtout en fait les mystiques qui vont nous intéresser. Donc parmi les mystiques espagnols, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, hein, ceux qui ont réformé justement, hein, le mot est important, pour la première, donc l'ordre des Carmélites, pour le second, l'ordre des Carmes. Et ce sont des grands mystiques, et puis qui laissent des livres. Quelle littérature, hein, sur un strict plan littéraire, la littérature de Thérèse d'Avila est remarquable, que dire de la nuit obscure de Jean de la Croix. C'est très beau comme texte, hein, des grands textes mystiques, ça. Hein, bon. Et on parlera aussi de Pierre de Bérulle, qui n'est pas espagnol. Pierre de Bérulle, c'est la piété et le mysticisme. Il a été fondateur de l'oratoire. L'oratoire est célèbre, je crois. C'est donc Pierre de Bérulle qui l'a fondé, qui est donc plein de piété, de mysticisme. Et on va insister justement sur cette voie mystique avec notamment ce que l'on a appelé les courants quiétistes, ce qui nous fait passer finalement déjà au XVIIe siècle. Les courants quiétistes, enfin le courant quiétiste, il faut le mettre au singulier bien sûr, qu'on peut appeler le molinosisme. Molinosisme, ça vient de Miguel Molinos. Molinos, il est mort en 1696 et ce qu'il recherchait, c'est l'anéantissement de soi. Donc vous avez là une forme mystique qui est extrêmement violente, qui est extrêmement radical, l'anéantissement de soi. C'est un mysticisme qu'il faut savoir mettre dans le prolongement des alumbrados, c'est-à-dire littéralement les illuminés espagnols. Donc durant le XVIe siècle, là, vous avez ce courant, parallèlement à Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, les alumbrados, hein, les illuminés. Et dans la continuité de ces alumbrados, ces illuminés espagnols, il y a le quiétisme, le molinosisme, hein, c'est-à-dire une volonté d'anéantissement de soi. Alors c'est une forme de christianisme, hein, mais très excessive, et plutôt donc qui rejoint le mysticisme. Alors c'est ça, donc le quiétisme, je vous rappelle que la tenante du quiétisme en France, c'est Madame Guyon, que Madame Guyon était soutenue par Fénelon. Fénelon, certes, n'est pas tout à fait quiétiste ou molinosiste, mais par contre, il est quand même très attaché à la pensée, à la culture, et à la réflexion de Madame Guyon, donc il aura tendance quand même à la soutenir, contre Bossuet. Bossuet a eu des attaques, mais extrêmement virulentes, à cet égard, contre Madame Guyon et Fénelon. Donc le quiétisme, c'est en France, en fait, hein, qui s'est bien épanoui, hein, le quiétisme. Alors on parlera donc des courants quiétistes et jansénistes. Le courant janséniste, d'ailleurs ça sera des cours forcément très denses, hein, parce que là c'est des choses très importantes. Bon, mais enfin bon, on arrivera à quelque chose quand même, hein. Forcément. Alors, le jansénisme, je vous rappelle de quoi il est né, finalement. Le jansénisme, c'est une réaction très vive aux jésuites Molina. attention, ne le confondez pas avec Molinos. Hein, Molinos, c'est le molinosisme, c'est-à-dire le quiétisme. Mais là, on parle d'un jésuite, je dis bien un jésuite, qui est Molina. Et ce jésuite Molina, qui est bien sûr un ardent défenseur de la réforme catholique, de la contre-réforme si vous voulez, et donc des idées des pères tridentins, ce jésuite Molina dit ceci, que la prédestination et la grâce ne sont efficaces que par le concours de la volonté humaine. Et la question de la volonté, je vous rappelle, hein, les pères tridentins auront dit la volonté est restée libre. Depuis le péché originel, donc la volonté de l'homme est restée libre. Et donc ce Molina nous dit la prédestination et la grâce ne sont efficaces que par le concours de la volonté humaine. Bon. Et les jansénistes de leur côté voient les choses comme ça, c'est une façon pour eux de dévaloriser la grâce. La grâce est forcément dévalorisée, puisque la grâce ne sera efficace que par le concours de la volonté humaine. Donc la grâce est dévalorisée. Et là on retombe sur l'augustinisme. Vous savez, John Duns Scott, qui contre Thomas d'Aquin, lui opposer justement la foi et la grâce. Hein. Donc là, on va le retrouver, là, cette question de la grâce. La grâce, pour les jansénistes, c'est quelque chose qui est absolument intouchable, hein, qui est sur un plan qu'on ne peut pas mettre, on ne peut pas le mettre sur le même plan que la volonté ou que la raison, par exemple. Hein. Bon, alors qu'ils étaient très rationnels, hein, les solitaires de Port-Royal des Champs, parmi lesquels Pascal, ils étaient très rationnels. Mais la grâce, c'est la grâce, que voulez-vous. Donc, contre Molina, les jansénistes vont effectivement développer une pensée qui s'appuie sur la grâce. C'est de l'augustinisme qu'ils font, si vous voulez. Et cet augustinisme est condamné en 1687. Très intéressant, ça aussi, cette condamnation, parce que là, donc le chef de l'État, hein, de l'État français, du royaume, hein, mais on peut le présenter comme État, qui n'est autre que Louis XIV, s'entend très bien avec le pape pour condamner les jansénistes en 1687. Bon, pourquoi cette condamnation? En tout cas, pourquoi cette condamnation pour le roi de France? C'est qu'il y a autre chose dans le jansénisme. Les jansénistes critiquaient le rôle de l'État. Alors, il ne le disait pas comme ça, hein, c'était pas aussi cru quand même. En fait, les jansénistes refusaient la contrainte intérieure. Hein, il y avait un refus chez eux de la contrainte intérieure. Mais qu'est-ce que la contrainte intérieure? C'est la contrainte de l'État. Voilà. Avec Louis XIV, avec Colbert, hein, vous êtes maintenant dans un État. Hein, donc, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même avant. Avant, c'est toujours la Gaule, un royaume de France qui est relativement petit, hein, qui est assez peu influent, mais pas au XVIIe siècle. Hein. Au XVIIe siècle, c'est un État, et un État puissant. Et refuser la contrainte intérieure, c'est finalement critiquer le rôle de l'État. Et ça, le roi ne peut pas l'accepter. Voilà. Alors, pourquoi ça, c'est important? Ça, ce point est très très important, parce que finalement, au bout du compte, qui seront les jansénistes? Les jansénistes, ce seront les bourgeois. Les bourgeois qui ne veulent pas de contraintes. Qui veulent profiter de leur commerce, de leurs affaires, si vous voulez, sans contraintes et sans ingérence de l'État, si vous voulez. Donc les bourgeois seront les jansénistes. Et le jansénisme, finalement, ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire qu'il restera toujours en France un esprit janséniste. Toujours. Hein, mais dans ce sens-là, si vous voulez. Ce sont des choses importantes, ça, hein. C'est fondamental. Hein. Parce qu'aujourd'hui, finalement, comment on pourrait les appeler, là, ces jansénistes? On pourrait presque, c'est très excessif, les présenter comme les libertariens, ceux qui ne veulent surtout pas d'ingérence de l'État dans leurs affaires, et qui sont, en ce moment, c'est notre actualité, en train de gagner la partie. L'État démissionne. De tout. Bon. Alors, non, on ne peut pas les comparer. Donc, les libertariens et les jansénistes, on ne peut pas les comparer. Les jansénistes étaient des gens religieux, extrêmement religieux. Hein, bon. C'était des grands penseurs. Les solitaires de Port-Royal des Champs, que voulez-vous, c'était des grands penseurs. Pas les libertariens. On ne peut pas considérer quand même que le transhumanisme est une philosophie. C'est une sous-philosophie, hein, qui va justifier justement donc les agissements des libertariens aujourd'hui. qui, en tout cas, semble leur donner crédit. Bon. Alors, mais quand même, hein, le jansénisme, c'est cet esprit qui est libre et libre, justement, vis-à-vis de l'État. Et on terminera, alors, cette année par la réforme catholique au XVIIe siècle, les ordres et les congrégations. Là, c'est pas compliqué, je vous renvoie au petit texte d'introduction que vous avez sur la feuille, hein, c'est la première page, et remarquez la dernière phrase qui dit ceci: les mysticismes de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, tout comme les courants jansénistes et quiétistes ou molinosismes, les compagnies de prêtres, lazaristes, sulpiciens, les congrégations hospitalières, ursulines, rendent compte de la religiosité exaspérée de ce moment, du moment du XVIIe siècle. Donc on parlera au cours de cette dernière séance des lazaristes, des sulpiciens, des congrégations hospitalières, c'est-à-dire ursulines, entre autres choses. Voilà. Et on aura donc une idée à peu près d'ensemble, donc de cette période de l'histoire du christianisme qui est quand même essentielle. Mais vous avez remarqué, je l'espère, c'est tout l'intérêt de cette présentation, donc un, voire plusieurs fils conducteurs, hein, des leitmotivs finalement, hein, des thèmes qui reviendront sans cesse, donc la grâce, l'augustinisme, la pauvreté, bon, des questions importantes en fait, hein. Voilà, donc auriez-vous des questions à poser sur ce programme, n'hésitez pas. Je précise d'ailleurs à ce propos qu'il est tout à fait complémentaire du programme d'histoire de l'art que j'ai présenté là tout à l'heure. Bon, seulement ça sera totalement différent. En histoire de l'art, on ne présentera que des beautés artistiques, et là vous aurez un autre regard finalement sur la même période. Mais un regard peut-être moins amène, en tout cas plus critique, plus historique, hein, aussi, hein, très objectif à ce propos, hein. C'est tout l'intérêt de l'histoire, hein, de nous permettre d'être objectif, hein.